deux trois trucs. Et il m'a dit ah, c'est cool, ça a l'air pas mal. Il a regardé de son côté et la dernière fois qu'on s'est eu au téléphone, il m'a dit oh, regarde-moi ce que j'ai trouvé. Et on a vu là vraiment des choses, il nous a trouvé, enfin nous des choses qu'on trouvait intéressantes. Et donc Guillaume m'a proposé qu'on vous partage ces modestes trouvailles, mais qui seront pour nous, je l'espère, un encouragement. Alors j'espère que vous avez votre Bible avec vous, parce que vous allez la feuilleter pas mal, et en particulier dans l'Épître aux Romains. Donc elle est déjà Romains 1. Et puis je vais vous expliquer quel a été le fruit de ma pensée. Vous allez pouvoir voir comment je pense. C'est pas un cadeau. Et ça risque de vous perdre. Mais vous allez voir un petit peu les questions que je me suis posées. On constate, quand on lit le Nouveau Testament, quand on voit tous les éléments de connaissance qu'on a au niveau de doctrine, que Paul, quand on voit sa vie, je parle de lui en particulier, il avait un objectif, c'était la mission. Il était apôtre pour les païens, et sa mission, c'était d'annoncer l'évangile au monde entier, que tous les païens connaissent le message de l'évangile. Et donc on voit que Paul avance dans sa mission, et régulièrement, malheureusement, quand on implante une église, après on aimerait qu'elle marche vraiment tip-top, mais on se rend compte qu'il y a des problèmes. Du coup, Paul devait réagir à ces problèmes-là et écrit, par exemple, l'Épître aux Corinthiens, où l'Église a encore des questions. Et donc, Paul doit développer sa théologie pour pouvoir continuer sa mission et que les Églises aussi rentrent dans cette mission, au service de la gloire du Seigneur. Donc, c'est parfois, et même très souvent, dans le conflit que Paul a dû développer sa théologie, mais merci Seigneur qu'il y ait eu ces conflits, parce que sinon Paul n'aurait pas écrit sur tous ces sujets qui sont indispensables pour nous. Et les Épîtres aux Corinthiens, on les aurait pas. L'Épître aux Galates non plus. L'Épître aux Éphésiens peut-être, il ne semblait pas avoir de problème à part, mais l'Épître aux Éphésiens, aux Philippiens, enfin voilà. Plein d'Épîtres où en fait on voit qu'il y avait quelque chose où Paul voit qu'il a posé les fondements, et puis il voit que la construction commence à partir de côté, alors que lui, il veut continuer de construire, et du coup, il doit revenir et dire, attention les gars, je remonte, tac, c'est comme ça, et il faut construire droit. D'accord ? Il y a une question que je me suis posée, c'est pourquoi Paul a-t-il écrit ce qu'on peut appeler son testament théologique, l'Épître aux Romains, aux Romains. Je me dis, moi, si j'étais Paul, j'aurais écrit j'aurais légué vraiment ma plus belle démonstration et complète démonstration, par exemple, à mon fidèle Timothée, parce que je sais que je peux compter sur lui et qu'il le diffuserait de partout. Ou je l'aurais laissé à l'église d'Éphèse, que je connaissais particulièrement bien, avec qui j'avais des liens précieux, ou l'église d'Antioche, ou Jérusalem. Mais pourquoi les Romains? Voilà une question que je me suis posée. Bon. Pour vous, quel est le thème central de l'Épître aux Romains? De prime abord, comme ça. Le salut. Exact, c'est le thème qui est le plus présent. Et on a un développement du salut phénoménal dans les 6 ou 8 chapitres, selon comment on veut les voir. Mais il y a vraiment une démonstration magistrale. Et puis après, il y a ces autres chapitres. Alors, 9 à 11, on évite d'en parler parce qu'on n'est pas d'accord. Et puis après, on a l'impression que c'est des recommandations pratiques. Et puis, il n'y a plus grand-chose très intéressant. Personnellement, je crois à l'unité de l'Épître aux Romains. L'apôtre avait un seul but principal dans cette Épître, et un but plutôt pratique, je crois. Et je pense que plus nous comprenons les mobiles et les motivations d'un auteur, plus nous comprenons aussi le sens de son message. Alors, je me suis formulé une hypothèse. J'ai remarqué que Paul était de plus en plus intentionnel dans son ministère. Le premier Paul reçoit son appel, lors de sa conversion, Christ lui dit qu'il va le servir, qu'il va souffrir pour lui, qu'il est l'apôtre des païens. Et puis Paul, pour le premier voyage missionnaire, attend tout de même l'envoi de l'église locale. Il sait qu'il est apôtre, mais il attend l'envoi de l'église locale que le Saint-Esprit dise. Donc d'abord, c'est l'église qui l'envoie. Premier voyage, il retourne à Jérusalem, et là, il est avec Barnabas, et là, c'est lui qui dit, si on retournait voir les frères pour voir comment ça se passe, si c'est toujours droit. Mais il a ça, c'est ce qu'il nous est dit, mais on voit qu'il a une intention plus grande, parce qu'il fait pas juste ce qu'il a fait, il élargit un petit peu la boucle, et il change le parcours. Et au milieu de son deuxième voyage, il parle déjà du troisième voyage, donc il est même pas rentré, qu'il pense déjà après à la suite. Donc il voit de plus en plus loin, et on voit en acte 19-21, qu'il dit même, acte 19-21, après ces choses furent passées, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine d'Achaïe. Quand j'y serai allé, se disait-il, il faut aussi que je voie Rome. Donc là, il est déjà sur le retour et il dit, il faut que j'aille jusqu'à Rome, je veux aller voir l'église là-bas. Donc on voit que de plus en plus, Paul avait une vision qui allait loin. Il me semble que Paul avait compris qu'il arrivait à une étape où son travail dans l'Est, basé, envoyé depuis l'église d'Antioche, arrivait à sa fin. Et puis il vise vers l'ouest maintenant, et en particulier l'Espagne. Et ça nous est révélé dans la lettre qu'il écrit aux Romains. Donc là, il nous dit qu'il va aller voir Rome, et dans l'épître aux Romains, vous allez le voir, il dit que son objectif, pourquoi il veut aller à Rome, c'est parce qu'il veut rejoindre l'Espagne. Et vous allez voir. Enfin, moi, je trouve cet homme tellement brillant que... Mais... Pour aller en Espagne, tenez, on va prendre dans l'épître aux Romains, vous allez voir. Romains 15, il dit ceci au verset 24. Hein, j'espère vous voir en passant quand je me rendrai en Espagne. Et puis au verset 28, dès que j'aurai terminé cette affaire et que je leur aurai remis les dons, je partirai pour l'Espagne et passerai chez vous. Donc son objectif ultime, c'est l'Espagne, et il voit Rome comme une étape pour aller se rendre en Espagne. Donc dans l'esprit de Paul, Rome est nécessaire, c'est l'étape avant l'Espagne. Pourquoi ? Et c'est là que je me pose des questions sur sa stratégie. L'église d'Espagne, de Rome n'a pas été fondée par Paul. Il n'y a jamais mis les pieds, et la mission de Dieu l'a précédé, en quelque sorte. Le Seigneur va plus vite que lui. Et probablement, c'est ce que la plupart pensent, l'église de Rome a été fondée par des Juifs qui habitaient à Rome, la diaspora juive, qui étaient venus pour adorer au moment de la Pentecôte, et qui se serait converti et reparti là-bas, les églises de maison auraient commencé à grandir. Mais Paul, lui, apôtre, n'y est pas allé. Il n'y a pas eu d'apôtres encore qui ont posé l'évangile vraiment selon la volonté du Seigneur, avec l'autorité apostolique. Ok ? Première chose à avoir en tête. Deuxième chose, il y avait, si je vous dis quel est le pays avec le plus d'influence aujourd'hui dans le monde, le plus de pouvoir, les États-Unis. Donc quand je vous parle, quand on se dit qu'il faut avoir Washington dans la poche, on se dit qu'il faut avoir dans la poche le pays avec le plus de rayonnance. Rome était la capitale, était le point névralgique, Et si on a Rome dans la poche, on a l'influence de l'Empire romain. Autre argument. Un autre argument, c'est que il y avait au 1er siècle une période particulière qu'on appelle la Pax Romana. C'était que, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais on arrivait au moment du 1er siècle, comme de par hasard, à une période où tout le pourtour méditerranéen était pacifié. Et Paul, dans son esprit, avait touché les villes principales, influentes, Éphèse, par exemple, qui représentait l'Est et qui avait de l'influence sur l'Est. Et Rome avait de l'influence sur tout le pourtour méditerranéen et jusqu'en Espagne. L'Espagne appartenait encore à l'Empire romain. Rome avait sa domination sur tout ça. Et l'Espagne était physiquement l'extrémité du monde connu. Hein? Donc s'il se dit, si j'ai Rome dans la poche, j'irai plus facilement en Espagne et ça sera ma nouvelle base. C'est mon hypothèse. Et un autre aspect, le livre des Actes, vous savez, il y a ce fameux verset de Actes 1, 8 qui dit à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et souvent, on fait une interprétation des fois très allégorique, on dit, bon, bah alors, mon Jérusalem, c'est ma famille, ma Judée, c'est mes voisins et ma Samarie, c'est mon travail. En fait, dans ce livre, je crois que ce verset représente, en fait, annonce le plan du livre des Actes, les étapes qu'il va y avoir. Et on voit à chaque fois ces étapes qui arrivent. Et quand on regarde, c'est une question que je me suis posée aussi, c'est pourquoi le livre des Actes finit avec « Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qui avait été louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. » Il est à Rome. Donc Paul arrive à Rome, il peut annoncer l'évangile librement, malgré sa détention, et ça s'arrête là. Et moi je trouve, c'est un peu en queue de poisson, j'aurais voulu connaître l'Espagne. Mais le livre des Actes n'est pas la biographie de Paul, ni la biographie de Pierre, c'est l'accomplissement du plan de Christ. Luc commence en disant « Je t'ai raconté ce que Jésus avait commencé de faire et sous-entend ce qu'il va continuer de faire. » Et Jésus dit « Vous, maintenant, vous serez mes témoins. Je vous ai envoyé jusqu'aux extrémités de la terre. » Rome est le point qui rayonne sur les extrémités de la terre. Donc, Luc arrête le récit à ce moment-là. Il y a plein d'autres arguments, mais je suis pas dans le livre des Actes, je suis dans le livre des Romains. Voilà ce que je pense. Et donc, Paul, dans sa stratégie, pour réaliser ce projet, a besoin d'une nouvelle base d'opération, de nouveaux compagnons et associés, parce qu'il a laissé aussi ses principaux leaders à l'Est. L'Église de Rome était, ma connaissance, la seule communauté chrétienne qui pouvait avoir ce potentiel-là, et elle était dans une ville stratégique. Alors, quelle stratégie pour se rendre en Espagne ? Je pense que pourquoi Paul a écrit du coup tout ce testament théologique. Il n'aura pas dit simplement voilà, je vais aller en Espagne, vous êtes ma nouvelle base, on va travailler ensemble, j'espère que vous serez mes collaborateurs pour la mission et qui développe ce qu'est la mission, pourquoi, comment, et etc. et tout. Et on se retrouve avec une présentation magistrale de l'Évangile, la plus grosse, la plus développée du Nouveau Testament. Je pense que Paul devait se demander, est-ce que l'Église de Rome reconnaîtra mon apostolat. Vous savez que son apostolat a été remis en question de façon quasi systématique de partout. Il fallait que son apostolat, son autorité, soit reconnue parce que son évangile était fondamental. C'est l'évangile apostolique, l'évangile des apôtres qui avait une base solide, pas une présentation qui pouvait être un petit peu fait à une sauce et en tout cas qui n'était pas donné par une source d'autorité, par les apôtres nominés par Christ. Et ça, vous le retrouvez tout ce développement que l'évangile est apostolique dans l'Épître aux Corinthiens, justement, avec qui il avait des problèmes à ce sujet-là, et qui rappelle ceci. Et puis, il y avait aussi un phénomène de rejet des païens vis-à-vis des juifs, et en même temps, les juifs qui étaient, eux, toujours un petit peu contre cette mission auprès des païens. Quoi. Il y avait toujours ce problème de fiction à comprendre que le salut était pour tous. Est-ce que donc ces Italiens allaient le soutenir et même participer avec lui avec à l'évangélisation des Espagnols. Donc, il marche un petit peu sur des œufs, parce qu'il n'a pas fondé cette église, mais par contre, il doit leur donner l'enseignement qui fait autorité, parce que c'est lui l'apôtre. Il doit s'assurer qu'ils aient le bon évangile, et il doit s'assurer que s'ils le comprennent bien, eh bien, ils seront d'accord d'aller avec lui annoncer l'évangile à toutes les nations. Donc, je propose que la motivation majeure de Paul, dans la lettre aux Romains, c'était de préparer les chrétiens de Rome à s'investir avec lui dans l'évangélisation. C'est la raison pour laquelle il a écrit cette épître. La visionnaire missionnaire de Paul, pour moi, était la source de ses développements théologiques. Alors, mes arguments, c'est facile de dire ça, mais maintenant, est-ce que vraiment on retrouve ces traces-là, cette hypothèse-là? Est-ce qu'on la retrouve dans l'épître aux Romains? Alors, la thèse de Paul, c'est que la mission est mondiale car l'évangile est universel. Nous sommes sauvés par la foi, or si quiconque peut croire, il faut l'annoncer à quiconque. L'expansion mondiale auprès des nations, c'est le cœur de Dieu, l'expansion de l'évangile. Et le Dieu nous rend participants à cette expansion-là. Regardez avec moi, allez au chapitre 1, verset 5. Paul dit là, par lui, par Jésus, nous avons reçu la grâce et l'apostolat. Et quand il dit qu'il a reçu l'apostolat, Paul dit qu'il a reçu l'autorité de Christ pour annoncer l'évangile de sa part, le véritable évangile. Nous avons reçu l'apostolat pour amener à son nom, à l'obéissance de la foi, tous les païens. Donc tous les païens, c'est tout le monde. Donc il s'introduit comme ça. Et souvent les introductions, c'est jamais fait au hasard. Et regardez maintenant au chapitre 16, la conclusion, elles ne sont jamais au hasard non plus, je vous rassure. Chapitre 16, verset 25 et 26, il dit « À celui qui peut vous affermir selon mon évangile, que je vous ai présenté là pendant 15 chapitres. » Donc là, il annonce qu'il va annoncer l'évangile, après il le fait, après il dit « Selon mon évangile, moi, apôtre, et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, conformément aux Écritures, son évangile est conforme à toute la révélation, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. » Vous voyez, on a comment on pourrait dire, vous savez, dans les étagères, quand on met les bouquins, on met deux, un petit peu comme des serre-joints, deux étés qui tiennent. Il y a, je suis apôtre, je dois annoncer l'évangile à tous les païens, et ça finit pareil. Vous avez vu mon évangile que je dois annoncer à tous les païens. C'est le bloc, l'évangile est pour tous les païens. Ok? Donc, il faut connaître le salut. Et regardez les versets au chapitre 1, 15 et 16. Je vais commencer à partir du verset 14. Il dit « Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir d'annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. » Sous-entendu, vous êtes des ignorants. Je rigole. Mais oui. « Car, et c'est là, ce car est très fort, parce qu'il introduit la chose suivante, « Je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu » pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Donc l'évangile est la puissance de Dieu pour tout le monde. Et regardez, parce que, et après il développe. Et par cette phrase-là, Paul, c'est l'introduction, Je n'ai pas honte de l'évangile parce qu'il est puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, qu'après il va faire tout le développement de présentation de l'évangile. D'accord? Et l'évangile, il démontre qu'on est sauvé par la foi seule. Et donc c'est cohérent avec ce qu'il dit, tout le monde peut croire. D'accord? Et puis quand on arrive, après, il développe ça, et arrivé au chapitre 10, qui arrive un petit peu comme dans une forme de conclusion de tout ce développement, c'est pour ça que je mets Romains 8, 9 aussi là-dedans, il conclut en disant « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur, chapitre 10, verset 13, vous voyez, il reprend la différence, excusez-moi, verset 12, il n'y a aucune différence, en effet, entre juifs et grecs. » Il introduit comme ça et il revient à ça après toute la démonstration de l'évangile. « Puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » C'est le pendant que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Si tu invoques, tu es sauvé. Si tu crois, c'est la puissance de Dieu. Comment donc? Alors après, il pose cette question. Mais il dit, mais comment donc tous ces païens, tous ces barbares, ces ignorants, invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Si on croit que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, notre responsabilité, c'est d'annoncer. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs si ils ne sont pas envoyés? Eh, les Romains, mes amis, on va se rencontrer. J'espère que vous avez vraiment bien compris l'évangile. Et donc, si vous avez compris que tout le monde peut être sauvé, ben j'espère que vous allez envoyer des gens l'annoncer. Et puis, oh, ça tombe bien, j'ai prévu de passer vous voir. Et puis, on fait un flashback en arrière. Regardez, on revient au chapitre 1, verset 13. Il avait introduit en disant ça, parce que c'est un malin, quoi. Il ne va pas avec ses gros sabots, il est vraiment fin. Il dit, je ne veux pas vous laisser ignorant, frère, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous. Si seulement je pouvais avoir des collaborateurs dans cette belle œuvre de l'annonce de l'Évangile. Et cela me renvoie donc du coup à la conclusion de Romains, voir si ça nous confirme ça. Regardez Romains 15. Où il reprend, après donc plusieurs, après tout son développement, avec aussi des conséquences pratiques au niveau éthique de l'évangile, Paul dit ceci, pour ce qui vous concerne, il revient à eux, pour ce qui vous concerne, vous, il développe, je vous ai écrit, verset 15, cependant à certains égards, je vous écris avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite. J'espère un petit peu secouer le cocotier et vous allumer, vous donner le feu, quoi. Il rappelle son apostolat, et puis verset 19, il dit, ainsi depuis Jérusalem, il rappelle son mandat d'apôtre. Ainsi, depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Je me suis fait l'honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, etc. Donc Paul dit, moi j'ai annoncé l'évangile de partout. J'ai rempli ma mission et maintenant je vais vous rejoindre. Et il continue, mais maintenant, verset 23, n'ayant plus rien qui me retienne dans les contrées, ayant depuis plusieurs années le désir d'aller vers vous, hein, il était intentionnel, il avait ça dans la tête depuis longtemps, hein, on l'a vu, j'espère vous voir en passant quand je me rendrai en Espagne. Et puis, verset 28, dès que j'aurai terminé avec cette affaire, que je leur aurai remis ces dons, je partirai pour l'Espagne et je passerai chez vous. Je sais qu'en allant vers vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai. Je sais que, en allant vers vous, c'est Christ qui m'envoie. Je suis mandaté pour vous donner un message de la part du Seigneur que je viens de vous présenter. Okay. Et je vous exhorte, frères, par notre Seigneur de Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur, afin que je sois délivré des incrédules de Judée et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés aux saints, en sorte que j'arrive chez vous avec joie, si c'est la volonté de Dieu, et que je jouisse au milieu de vous de quelques repos. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est convaincant? Assez? Je pense que Paul voulait inclure avec lui dans la mission les Romains. Pour les inclure, il fallait qu'ils aient une bonne compréhension de l'Évangile. Pourquoi? Parce que la bonne compréhension de l'Évangile même est la source primaire de la mission. On évangélise à cause de l'Évangile. Hein? On évangélise à cause même du message lui-même. Le message ne peut pas être privé, on ne peut pas le garder pour nous. Les Romains ne pouvaient pas le garder pour eux. Et c'est ça qu'il voulait qu'ils comprennent. Il espérait les prendre avec lui pour aller remplir son mandat qui était d'annoncer l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est pour ça qu'une fois qu'il est arrivé à Rome, Luc s'arrête dans son récit du livre des Actes, parce que pour lui, c'est la démonstration qu'il a pu y aller et que donc de là, ça va partir. Et l'histoire a montré qu'ils sont après allés jusqu'en Espagne. Et peut-être même que Paul y est allé en Espagne. D'ailleurs, et c'est pas du tout une option farfelue. Donc, juste deux exhortations avant de laisser la place à Guillaume. Je ne jamais détacher son désir d'étudier la Bible, de comprendre l'Évangile, de se former de celui de servir dans la mission. Nous nous formons, nous étudions pour servir. Et j'ai vu la richesse des questions, le désir d'apprendre et tout ça. Il ne faut pas qu'on oublie, on ne peut pas détacher la connaissance théologique de la pratique missionnaire. Et la mission est ce qui motive ça. La grâce, comme Paul le développe dans tout l'Épître aux Romains, le salut par la grâce est la seule chose qui nous fera avancer dans notre vie chrétienne et dans la mission. La grâce révélée en Jésus-Christ est tout pour nous.
L'une des premières choses qu'on doit regarder quand on étudie un texte, en particulier un texte issu des Épîtres, c'est de regarder ce qu'on appelle l'occasion et le but. C'est en gros ce que Raph a fait à l'instant en essayant de déterminer pourquoi Paul écrit aux Romains. Il a relevé l'occasion, un contexte polémique probablement entre juifs et païens, une grosse tension à ce niveau-là, mais bien sûr il avait un but derrière la tête, comme toujours. Et en poursuivant cette occasion et ce but, nous avons un traité de théologie peut-être le plus magistral de tout le Nouveau Testament. Mais si ce que dit Raph est vrai maintenant, vous avez été en face ce matin du plus grand traité de missiologie qui n'ait jamais été écrit de toute l'histoire de l'Église, parce que vous avez un traité de missiologie inspiré. Et si ça, c'est pas un truc de ouf, vous avez des gens qui forment à la missiologie aujourd'hui dans des grandes écoles de théologie aux États-Unis ou dans le monde, mais nous avons un traité de missiologie inspiré sous les yeux. Si ce que vous a dit Raph est vrai, je pense que ce que vous a dit Raph est vrai. La plupart des commentateurs pensent que le but de Paul était d'aller en Espagne. Eusèbe de Césarée, en 241, dans son histoire ecclésiastique, relate que Paul est parti en Espagne. Comme je vous l'ai dit hier, Eusèbe de Césarée, ça vaut ce que ça vaut. Mais on peut raisonnablement penser que Paul est bien parti en Espagne. Sur le fait que Raph a exprimé que l'Espagne était connue comme l'extrémité du monde connu, c'est un fait avéré, mais vous l'avez aussi dans l'Ancien Testament. Quand Jonas veut s'enfuir loin de la face de l'Éternel, il veut faire comme Caïn, partir au bout du monde. Où est-ce qu'il s'en va? À Tarsis. Tarsis était probablement en Espagne. L'Espagne était un objectif prioritaire dans la pensée de Paul. Maintenant, si on veut démontrer une chose comme celle que Raph vient de formuler à l'instant, si on veut défendre pareille position, il va falloir que ce même schéma, c'est-à-dire un schéma missionnaire de Paul pour qui l'intention est systématiquement d'associer les églises locales à son travail missionnaire, ce schéma se retrouve ailleurs. La grande question, c'est, est-ce qu'il se retrouve ailleurs? Et c'est ce que je vais essayer de vous démontrer maintenant. Et je pense que c'est tout à fait démontrable au travers d'une église qui était en bien mauvaise santé et qui aurait été peut-être la dernière qu'on aurait pu associer à une perspective missionnaire. Règle d'abord tes problèmes, mon ami, et ensuite tu viendras évangéliser avec moi. On va lire ensemble 1 Corinthiens 16. 1 Corinthiens chapitre 16. On va lire à partir du verset 1 et on s'arrêtera au verset 10. On pourra dire encore des choses après, mais on s'arrêtera au verset 11. Allez, au verset 11. 1 Corinthiens 16, verset 1 à 11. Paul parle de la collecte et il s'exprime de la manière suivante. Je lis volontairement dans la seconde 21, vous allez comprendre pourquoi. Acte 16, verset 1. En ce qui concerne la collecte en faveur des saints, faites vous aussi comme je l'ai prescrit aux églises de la Galatie. Que chacun de vous le dimanche mette de côté chez lui tout ce qu'il pourra, en fonction de ses moyens, afin que l'on n'attende pas mon arrivée pour récolter les dons. Quand je serai chez vous, j'enverrai avec des lettres ceux que vous aurez choisis pour porter vos dons à Jérusalem. S'il est approprié, s'il est convenable, autrement dit, si la chose vaut la peine, s'il y a suffisamment d'argent, s'il est convenable, que j'y aille moi aussi, ils feront le voyage avec moi. Je viendrai chez vous après avoir traversé la Macédoine, car je vais passer par là. Il est possible que je séjourne quelque temps chez vous, ou même que j'y passe l'hiver. Ainsi, vous pourrez m'aider à poursuivre mon voyage là où je dois me rendre. Je ne veux pas cette fois-ci voir seulement en passant, mais j'espère rester quelque temps avec vous si le Seigneur me le permet. Cependant, je resterai à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte est largement ouverte pour un travail efficace. Les adversaires sont nombreux. Verset 10. Si Timothée arrive, veillez à ce qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille tout comme moi à l'œuvre du Seigneur. Verset 11. Que personne ne le méprise. Aidez-le à poursuivre en paix son voyage de retour vers moi, car je l'attends avec les frères. On va revenir sur Romains, le passage que disait Raph, qui se trouve dans Romains chapitre 15. Lisez avec moi le verset 24. Verset 24 du chapitre 15 de Romains, que je prends dans une version différente que celle que Raph a lue. Il dit « Quand je me rendrai en Espagne, j'espère en effet vous voir en passant et recevoir votre aide, pour me rendre une fois que j'aurai satisfait, du moins en partie, mon désir d'être avec. » Pourquoi est-ce que volontairement j'ai lu dans la seconde 21 et pourquoi est-ce que volontairement j'ai relu ces passages? Parce que la grande question se cache derrière l'étymologie d'un mot. Et ce mot, c'est le mot « propempo ». Ce mot-là peut avoir deux sens. Soit il a le sens d'aider, sous-entendu financièrement, de financer, d'être en quelque sorte une base logistique dans le contexte immédiat. Soit il est en train de dire aux Corinthiens et aux Romains, j'espère venir chez vous et que vous me serviez de base pour mon voyage futur, que vous m'aidiez, que vous m'assistiez dans des biens matériels. Soit il peut vouloir dire que vous m'accompagniez. Or, ce mot propempo, il se retrouve deux fois dans 1 Corinthiens 16, une première fois au chapitre, au verset 6, il leur dit, il est possible que je séjourne quelque temps chez vous en même temps que je passe l'hiver. Ainsi, vous pourrez m'aider, ou alors vous pourrez m'accompagner à poursuivre mon voyage là où je dois me rendre. Et au verset 11, que personne ne méprise Timothée, aidez-le à poursuivre, ou alors accompagnez-le, car il travaille tout comme moi à l'œuvre du Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'il leur dit? Est-ce qu'il leur dit, aidez-moi? Ou est-ce qu'il leur dit, accompagnez-moi? Vous savez que le sens étymologique d'un mot n'est pas seulement défini par la définition qu'on lui donne. En l'occurrence, le mot propempo, il a au moins deux sens. En français, vous avez des mots qui ont des sens multiples, je pourrais vous en citer plusieurs, j'en ai pas là comme ça qui me viennent en tête, mais vous savez qu'un mot peut avoir plusieurs sens. C'est toujours le contexte qui va déterminer avec exactitude le sens qu'un mot prend dans la phrase. Or, vous avez deux sortes de contextes. Vous avez ce qu'on appelle la péricope. Ça parle à tout le monde, la péricope? La péricope, c'est un passage logique. C'est l'idée logique du passage.
Autrement dit, quand vous lisez votre Bible, certains parmi vous ont des Bibles avec des paragraphes, vous avez remarqué, et parfois vous avez un titre sur le paragraphe. C'est ce qu'on appelle un découpage en péricope. Cette péricope n'est pas forcément juste. Je vous mets en garde contre les Bibles à péricope parce qu'on n'est pas toujours d'accord avec la manière de découper. Et ce que j'essaie de vous dire, c'est que le contexte immédiat, ça va être le contexte logique du verset dans lequel il se trouve. Mais c'est pas seulement cela. Il faut aussi regarder cela dans le contexte entier de l'épître. Or, si vous prenez la première épître aux Corinthiens, on a de sérieuses raisons de penser que Paul ne voulait pas être aidé par eux. Pourquoi ? Parce qu'au chapitre 9, il leur dit « Je me suis fait une gloire de vous annoncer gratuitement l'Évangile. Je me suis fait une gloire de ne pas prendre d'argent chez vous. Et est-ce que cette gloire me sera ôtée ? Certainement pas. Ma gloire, c'est de ne pas prendre un franc, c'était pas des francs à l'époque, mais un euro, c'était pas des euros à l'époque, de chez vous. Par conséquent, il dirait aux Corinthiens au chapitre 9, je ne prends pas d'argent chez vous, et il leur dirait au chapitre 16, bon, quand je vais venir, vous me donnerez de l'argent, j'espère. Ça paraît être un petit peu incompatible. Il va prendre de l'argent des Corinthiens, mais pas pour lui-même, pas pour financer son ministère. Il va prendre de l'argent des Corinthiens pour les ramener à Jérusalem. Mais pour son ministère, il ne voulait certainement pas être l'objet de la critique des faux docteurs qui fréquentaient l'église de Corinthe et qui cherchaient à diviser l'église et à séduire des groupes à droite et à gauche. Pour ceux qui étudient Corinthiens, vous savez que c'était divisé et morcelé entre eux. Par conséquent, ça paraît fortement improbable que Paul ait pu dire aux Corinthiens « Financez-moi, aidez-moi », là où au chapitre 9, il leur dit « Je me suis fait une gloire à cause de l'Évangile, afin de ne pas être un obstacle à l'Évangile, de ne pas toucher le moindre argent de votre part. » Prenez de l'argent des Philippiens, il n'en prenait pas des Corinthiens. Il apparaît que le mot propre mot veut très certainement, et même à 99,9% dire « Accompagnez-moi ». Maintenant, si on revient sur ce que Raph vient de vous dire, pourquoi est-ce que Paul utiliserait dans une épître un mot dans un sens précis et dans l'autre, un mot dans un autre sens ? Surtout que l'épître aux Romains a été écrite quand Paul était à Corinthe. Et quand il écrit Romains 1, et qu'il voit toute la description de l'idolâtrie, de ce qu'il voyait à Corinthe avec la débauche et les viandes sacrifiées aux idoles, et les gens qui allaient se prosterner dans le temple d'Aphrodite, qui était une des sept merveilles du monde, si ma mémoire est bonne, alors à ce moment-là, il se retrouve dans une perspective où vous avez cette description très fine de ce qu'est la colère de Dieu qui se révèle du ciel contre toute impiété, et quand vous regardez la description qu'il fait de l'idolâtrie au chapitre 1, vous vous dites, c'est tellement vivant que c'était forcé qu'il l'avait sous les yeux. Par conséquent, on a toutes les bonnes raisons de penser que Paul est en train de dire aux Romains, accompagnez-moi jusqu'aux extrémités de la terre, mais qu'il est en train de dire aux Corinthiens, accompagnez-moi dans la tâche que j'ai à vous. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il a dit aux Corinthiens, accompagnez-moi. Pour ceux qui fréquentent cette église, vous avez étudié Corinthiens, vous avez pris du Corinthien pendant 3 ans, même je crois, et vous commencez à être des spécialistes en Corinthiens. D'ailleurs, posez-vous les questions, c'est incroyable que la souveraineté de Dieu vous fasse étudier Corinthiens pendant 3 ans. Moi, je serai à votre place, je me remettrai en question. Mais Corinthiens, pour vous, n'a pas de secret, et vous savez qu'à Corinthe, il y avait des gros problèmes. Pour ainsi dire, les 10 premiers versets, les 9 premiers versets, c'est sa salutation, son encouragement, Dieu va vous faire persévérer jusqu'à la fin, et dans les 16 chapitres qui suivent, il est fume, mais il est déchire de A jusqu'à Z, vous êtes divisés, vous avez laissé la sagesse philosophique rentrer parmi vous, il y a une débauche chez vous, elle se rencontre même pas chez les païens, en plus vous faites des procès entre vous, et alors que vous êtes tous des débauchés, que vous couchez les uns avec les autres, vous m'envoyez une lettre pour me demander est-ce qu'on peut se marier. Chapitre 8, vous mangez des viandes sacrifiées aux idoles, mais vous soucisez mal de votre liberté. Chapitre 11, ok, vous vous focalisez sur des aspects extérieurs comme le voile, mais est-ce que vous comprenez pourquoi je vous ai dit de mettre le voile? Chapitre 12, ok, vous voulez des dons spirituels, mais qu'est-ce que vous recherchez? Parler en langue, prophétie, miracle, alors que le cœur c'est amour. Amour qui transcende tout, et la foi et l'espérance, ces choses qui demeureront dans le ciel, alors que ces choses-là vont s'arrêter un jour. Chapitre 15, vous voulez savoir pourquoi vous avez des problèmes de doctrine? Parce que certains parmi vous nient la résurrection et vivent pour ce monde, alors que vous devriez conformer votre vie présente dans la chair à celle qu'elle sera dans le ciel quand vous serez réunis avec Christ. Ne vous étonnez pas de ce que je vous ai dit avant, votre problème il est là. Chapitre 16,
Venez avec moi. Oui, je vous ai fumé. Oui, vous êtes des chrétiens un peu à la ramasse. Mais accompagnez-moi. C'est pas un truc de dingue, ça. Il aurait dû leur dire, dans une conception un peu moderne, vous êtes disciplés, vous n'évangélisez pas pendant 3 ans jusqu'à ce que vous vous repentiez et que vous passiez devant un collège public d'anciens et que vous disiez « Pardon ». Et là, peut-être vous retournerez dans la rue et vous aurez le droit de distribuer des tracts. Rien à voir. Mais la question, c'est pourquoi est-ce que Paul agit ainsi? Pourquoi est-ce qu'il est prêt à associer des Corinthiens à son œuvre pour faire grosso modo la même chose que ce qu'il comptait faire avec les Romains, à savoir les associer à son ministère? La réponse, elle est extrêmement simple. Paul savait que si les Corinthiens voulaient sortir de l'ornière dans laquelle ils étaient, Paul savait que si les Corinthiens voulaient croître dans leur maturité en Christ parce qu'ils étaient immatures, Paul savait que ça allait se produire uniquement par le service. Le service chrétien auquel ils étaient appelés, ils avaient reçu le Saint-Esprit comme une puissance pour le témoignage, et ils avaient cette puissance en eux. Tant qu'ils ne l'exerceraient pas, ils allaient continuer dans leur marasme et dans leurs problèmes liés à leur monde ambiant dans lequel ils étaient. Et ce que Paul leur propose tout simplement, c'est « Venez avec moi et venez voir un petit peu c'est quoi la vie chrétienne. Accompagnez-moi et vous verrez. » Ce que je veux vous dire, c'est que Paul n'a pas souci de l'évangélisation seulement, ni uniquement de cet aspect individuel du discipulat, de la croissance individuelle des personnes, mais il parle de la croissance du corps de Christ. Il voudrait les voir grandir en tant que communauté. Un des grands mal, on disait avec Raph hier, de système un petit peu aujourd'hui qu'on appelle congrégationaliste. Ça vous parle, système congrégationaliste? Vous avez deux grands systèmes d'organisation d'église. Le système presbytérien ou épiscopalien, et le système congrégationaliste. Le système presbytérien voit une sorte de hiérarchie dans l'église. C'est typiquement des évêques. On estime que presbytéros, c'est le gars qui est au-dessus, quoi. Donc vous avez des églises, et au-dessus du pasteur, vous avez un chef, un évêque, en quelque sorte. Le système congrégationaliste croit à l'indépendance des églises, avec une autonomie plus ou moins forte et une implication plus ou moins forte des membres. Certains vont voter pour les anciens, d'autres ne vont pas voter. Mais une des limites du système congrégationaliste, même si on est des grands congrégationalistes, je pense qu'on peut le dire, mais une des limites du système, c'est que finalement, ça pousse à l'individualisme. Or, le corps de Christ, c'est un corps. C'est pas marqué « la main va au marché pendant que le pied va au cinéma ». Vous voyez ce que je veux dire? C'est un corps. Les choses sont globales. Et Paul voyait la croissance du corps comme un tout. Et il les aborde dans une perspective globale. Et regardez bien, il veut que l'Église, elle croisse, mais pas seulement. Il veut voir l'unité de toutes les Églises entre elles, et l'entretien de liens forts et pratiques entre eux. Je veux dire, il va à Jérusalem, il rencontre de son travail. Voilà ce qui s'est passé quand on était dans les provinces de l'Achaïe. Voilà ce qui s'est passé quand on était en Asie. Voilà ce qui s'est passé. Regardez les miracles qui se sont faits. Regardez comment Dieu agit. Mieux, il fait ça à Jérusalem, mais avant d'aller à Jérusalem, il repasse par son église d'envoi à Antioche. Il leur fait un rapport. Mais c'est pas fini. Il cherche, avant toutes les églises qu'il a fondées, participants des besoins d'une église en souffrance, à savoir celle de Jérusalem. Le texte nous dit, j'ai pris l'argent de la Galatie. Il en parle également aux Philippiens. Il en parle une première fois aux Corinthiens, et visiblement, il y a une deuxième collecte à Corinthe dans 2 Corinthiens. Donc, il prend les églises qu'il a fondées à droite et à gauche, et il leur dit, est-ce que vous avez conscience que vous formez un tout, et que globalement, vous êtes membres les uns des autres? Venez avec moi dans le service des saints, venez avec moi dans mon voyage missionnaire, venez voir c'est quoi la vie chrétienne, venez voir un petit peu ce qui se passe en dehors de chez vous. Daniel Herman, qui est prof à l'IBG, je l'ai entendu prêcher un jour sur un sujet qui n'avait rien à voir avec celui-là. Et il expliquait que dans son église où il était à l'époque, dans le Côte d'Or, il se retrouvait tous les dimanches avec chacun qui allait voir ses potes et qui prenait l'apéritif le midi. Et lui, il se reprenait tous les cas difficiles à la maison. Alors un jour, il leur a dit « Hey, les amis, ça serait peut-être bien que vous sortiez un petit peu de votre zone d'habitude et puis que vous commenciez à regarder ce qui se passe ailleurs. » Et vous savez ce qu'il a fait pour commencer à essayer de casser cette mortalité? Il a mis à l'entrée de l'église une carte du monde. Et il leur a dit, vous n'êtes pas seuls les gars, les filles, vous n'êtes pas seuls. Les chrétiens, il y en a jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, Paul cherche à impliquer toutes les églises dans le service des saints. Ensuite, il envisage le ministère, le sien en particulier, comme un moyen de fédérer les chrétiens dans une action commune et même dans des prières communes, relisez ce que Raph a lu dans Romains 15, 30, il voudrait voir quelque chose comme un but commun qui soit tourné vers quoi ? La proclamation de la gloire de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que c'est incohérent avec le message de Jésus ? Quel est le dernier commandement de Jésus ? Vous serez mes témoins. La grande question, c'est à qui est-ce que Jésus dit ça ? Est-ce qu'il ne dit qu'à 12 personnes ? Dans Acte 1, verset 8, on sait qu'ils étaient au moins 120. Mais il est fort probable que la grande mission qui a été donnée dans Matthieu 28, verset 18 à 20, n'ait pas été seulement donnée à 12 disciples, mais qu'elle a été donnée aux 500 qui l'ont vu ressusciter et qui sont mentionnés dans 1 Corinthiens 15, verset 5. C'est tout à fait probable, il y a de sérieuses raisons de croire cela. Nicolas Blocher est en train d'écrire un article pour défendre cette position qui sera publié très bientôt. Enfin, il envisage toujours l'Église comme un corps et veut qu'elle croisse en tant que corps et qu'elle agisse en tant que corps. C'est-à-dire c'est complètement différent de l'individualisme. Vous voyez ? Donc Paul a une perspective globale, il veut associer les chrétiens à cette perspective globale et il leur dit « Vous n'êtes pas seul dans votre coin, vous n'êtes pas des individus, vous êtes un corps, vous êtes une église qui appartient à un corps global, un corps mystique, un corps invisible qui est celui de l'église invisible de Christ. » Ce qu'on appelle parfois à tort l'église universelle. Par conséquent, agissez et venez avec moi et voyez ce qui se passe. Ce que ça veut dire aussi, deuxième application, c'est que Paul considère la mission comme un levier de choix pour la croissance de l'Église visible. La croissance de l'Église visible dans son expression locale. Le but de votre semaine d'évangélisation ici n'est pas une fin en soi. Le but de votre semaine est de donner un boost de votre Église, pour le témoignage et l'évangélisation de chaque membre de ce corps local, de cette expression locale de l'Église, qui est Saint-Maur. L'objectif que vous avez ici, c'est de transmettre une vision. Il ne s'agit pas seulement de venir dans la rue distribuer des tracts, il s'agit simplement de porter un fardeau sur notre cœur, et mieux encore, si vous voulez faire comme Paul, de le transmettre à d'autres. Vous avez certainement des amis dans votre entourage qui vivent un christianisme avec des hauts et des bas, et qui luttent dans leur vie spirituelle. Vous voulez une solution pour eux ? Viens avec moi, mon ami. Travaillez avec moi, la perspective missionnaire. Vous avez certainement vous-même vos luttes et vos chutes. Vous avez certainement votre sécheresse spirituelle. Vous avez certainement des matins où vous vous levez, comme moi en ce moment, vous vous dites « Je suis un arbre sec, je suis un bois mort, j'ai du mal à prier, j'ai du mal à me concentrer sur toi, je fais tout parce que je me l'impose à cause de l'Évangile. » Vous voulez retrouver un zèle missionnaire ? Vous voulez retrouver un zèle dans votre vie de tous les jours ? Impliquez-vous et impliquez les autres dans la mission. Ce que je veux vous dire par là, c'est que nous sommes tous individuellement appelé à prendre part à la grande mission mondiale. Non seulement parce que ça rend Dieu glorieux, ça c'est la première raison, mais la deuxième raison c'est parce que ça nous rend parfaitement heureux. Et si vous voulez voir des chrétiens épanouis dans vos églises, et si vous voulez voir vos églises vivre, et si vous voulez voir les problèmes se régler entre les personnes qui se disputent et qui se disent pas bonjour le dimanche matin, ou qui se griffent par derrière, ou qui parlent dans leur dos comme ça arrive dans plein d'églises, dites-leur, viens avec moi, combat le bon combat, et cours la bonne course. Rentre dans l'arène, et tu verras comme il est bon de servir le Seigneur. Vous savez, quand on court, on n'a plus beaucoup de souffle pour critiquer les autres. Donc du coup, on est bien dans ce bon combat, le bon combat de la foi dans lequel on court, courant dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Bien souvent, la mission est un levier de croissance extraordinaire pour les chrétiens. Je terminerai par un avertissement. On a tous des perspectives missiologiques parfois différentes. Vous avez une grande emphase qui est mise aujourd'hui sur la fonction d'évangéliste, du ministère d'évangéliste. Personnellement, c'est mon avis personnel, je ne crois pas au ministère d'évangéliste, je pense que c'est mon avis, je ne vais pas chercher à vous le démontrer maintenant. Ce que j'essaie juste de vous dire, c'est que faire une trop grande dichotomie, une trop grande distinction entre témoin et évangéliste, ça finit par dire à des chrétiens que l'évangélisation est réservée à des professionnels. Or, ce n'est pas le cas. L'évangélisation, la participation à la mission mondiale est réservée à l'ensemble de ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Il n'y a pas de simple laïc d'un côté et des actifs engagés de l'autre. Vous faites partie d'un corps. Le corps de Christ, dans son témoignage, implique l'ensemble de ses membres. D'une manière ou d'une autre, on participe tous à la mission mondiale. sauf si on ne veut pas y aller. Vous êtes tous appelés à y prendre part. C'est toute l'Église qui est missionnaire. Soit l'Église, elle est missionnaire, soit elle est démissionnaire. Et j'aimerais vous dire encore un truc. Un chrétien dans un local, c'est comme du sel dans un bocal. Si ça reste dedans, ça ne va pas donner beaucoup. Vous êtes appelés, mes amis, à être des missionnaires. La mission est un levier de croissance pour l'Église. La mission est un levier de croissance pour votre vie spirituelle. La mission est un levier de croissance pour votre connaissance de la Bible. Ça vous étonne? Bah oui, quand vous prenez des objections à longueur de temps, à un moment, vous cherchez pourquoi vous n'arrivez pas à répondre. Et c'est comme ça qu'on progresse. La mission est ce à quoi vous avez été appelé par Christ qui vous a communiqué le Saint-Esprit au travers de la rédemption qu'il a accomplie sur la croix pour que vous soyez ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, voulez-vous l'être? Les Romains allaient être associés à Paul, les Corinthiens allaient être associés à Paul. Est-ce que vos églises seront associées à Paul? Est-ce que vous vous y mettrez vous-même? Est-ce que vous tendrez la main à celui qui vous appelle pour vous associer avec lui? Et est-ce que vous tendrez la main à d'autres pour qu'eux aussi viennent vous rejoindre dans l'accomplissement de la grande mission finale? J'aimerais vous donner un remède par rapport au coup de blues. Et je terminerai par là. On termine toujours les semaines d'évangélisation sur les rotules. On est fatigué, surtout quand on a parlé jusqu'à 6h du matin de « Est-ce que Dieu a prédestiné mon conjoint ou pas ?» Mais c'est un aspect de l'élection qui revient souvent chez le personnel féminin, n'est-ce pas? Mais la grande question, quand vous terminez la semaine sur le rotule, vous êtes à moitié à genoux par la fatigue plutôt qu'autre chose, et que le coup de blues vient vous saisir. Et vous vous dites « Purée, j'ai pu voir les gens avec qui j'ai fait une expérience tellement intense durant cette semaine. Comment est-ce que je vais faire ?» Et la semaine suivante, généralement, vous êtes tout en bas, et c'est une occasion incroyable de tentation de la part de Satan, de chute. Vous voulez une méthode qui va vous permettre de surmonter le coup de blues? Ce que vous avez reçu ici, appliquez-vous dès lundi à le transmettre à d'autres. Ce que tu as entendu de moi, transmets-le à des hommes fidèles qui soient aussi capables de penser à d'autres. Communiquez ce que vous avez reçu. Que cette semaine-là ne s'arrête pas là, et qu'elle ne soit pas une fin en soi. Et que atteindre sa mort, ça devienne atteindre Belleville, ça devienne atteindre Masséna, ça devienne atteindre Clermont-Ferrand, ça devienne atteindre la France et atteindre les extrémités de la terre. Et si vous voulez voir un réveil en France, mettez-vous ce fardeau sur les épaules. Le joug léger que Christ vous donne est aussi un joug missionnaire. Amen.